Qui êtes-vous pour avaler une sornette aussi énorme ? Moi, inventer une expression aussi médiocre, aussi clinquante que chemin de croix digestif. C'est du niveau d'un théologien de seconde zone, comme vous. Enfin, je constate avec un soulagement un peu sénile que le monde littéraire n'a pas changé. C'est encore et toujours le triomphe de ceux qui font semblant d'avoir lu machin. Seulement, à votre époque, vous n'avez plus de mérite. Il existe aujourd'hui des brochures qui permettent à des analphabètes de parler des grands auteurs avec toutes les apparences d'une culture moyenne. C'est d'ailleurs là où vous vous trompez. Je considère comme un mérite le fait de ne pas m'avoir lu. J'aurais une chaleureuse admiration pour le journaliste qui viendrait m'interroger sans même savoir qui je suis et qui ne cacherait pas cette ignorance. Mais ne rien savoir de moi, à part ces espèces de milkshakes déshydratés. Rajoutez de l'eau et vous obtiendrez un milkshake prêt à l'emploi. Peut-on imaginer plus médiocre ?
Essayez de comprendre. Nous sommes le 15 et la nouvelle de votre cancer est tombée le 10. Vous avez déjà édité 22 gros romans. Il aurait été impossible de les lire en si peu de temps. Surtout en cette période tourmentée où nous guettons les moindres informations du Moyen-Orient.
La crise du Golfe est plus intéressante que mon cadavre, je vous l'accorde. Mais le temps que vous avez passé à potasser les brochures qui me résument, vous auriez été mieux inspiré de le consacrer à lire, ne serait-ce que 10 pages d'un de mes 22 livres.
Je vais vous faire un aveu.
Inutile, j'ai compris. Vous avez essayé et vous avez démissionné avant même d'avoir atteint la page 10, c'est ça? Je l'ai deviné depuis que je vous ai vu. Je reconnais à l'instant les gens qui m'ont lu. Ça se lit sur leur visage. Vous, vous n'aviez l'air ni accablé, ni guiré, ni gros, ni maigre, ni extatique. Vous aviez l'air sain. Vous ne m'aviez donc pas plus lu que votre collègue d'hier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en dépit de tout, j'ai encore des traces de sympathie pour vous. J'en ai d'autant plus que vous avez abandonné avant la page 10. Ça dénote une force de caractère dont je n'ai jamais été capable. En outre, la tentative d'aveu, superflue, vous honore. En fait, je vous eusse prise en grippe si, m'ayant bel et bien lu, vous fussiez tel que je vous vois. Mais, trêve de subjonctif risible, nous en étions à ma digestion, si j'ai bonne mémoire.
C'est cela, au caramel, plus précisément.
Eh bien, quand j'ai achevé le déjeuner, je prends la direction du fumoir. C'est l'un des sommets de la journée. Je ne tolère vos interviews que le matin, car l'après-midi, je fume jusqu'à 17h.
Pourquoi jusqu'à 17h ?
À 17h, arrive cette stupide infirmière qui croit utile de me laver de pied en cap. Encore une idée de Gravelin. Un bain quotidien. Vous vous rendez compte? Vanitas, vanitatum sed omnia vanitas. Alors je me venge comme je peux. Je m'arrange à puer le plus possible pour incommoder cette oie blanche. Je truffe mon déjeuner de gousses d'ail entières, m'inventant des complications circulatoires. Et puis je fume comme un turc jusqu'à l'intrusion de ma lavandière. »
Il eut un rire ignoble.
« Ne me dites pas que vous fumez autant dans l'unique but d'asphyxier cette malheureuse. »
« Ce serait une raison suffisante. Mais la vérité, c'est que j'adore fumer le cigare. Si je ne choisissais pas de fumer à ces heures-là, il n'y aurait rien de pernicieux à cette activité. Je dis bien activité, car pour moi, fumer est une occupation à part entière, pendant laquelle je ne tolère aucune visite. Aucune diversion. »
C'est très intéressant, monsieur Tage. Mais ne nous égarons pas, vos cigares ne concernent pas votre digestion. »
Vous croyez? Je n'en suis pas si sûr. Enfin, si ça ne vous intéresse pas. Et mon bain, ça vous intéresse?
Non. À moins que vous ne mangiez le savon ou buviez l'eau de rinçage.
Vous vous rendez compte que cette salope me met à poil, frotte mes bourrelets, douche mon arrière-train? Je suis sûr que ça la fait jouir de mariner un obèse sans défense, nu et imberbe. Ces infirmières sont toutes des obsédées. C'est pour ça qu'elles choisissent ce sale métier.
Monsieur Tache, je crois que nous nous égarons à nouveau.
Je ne suis pas d'accord. Cet épisode quotidien est si pervers que ma digestion en est perturbée. Rendez-vous compte. Je suis seul et nu comme un ver dans la flotte. Humilié, monstrueusement adipeux devant cette créature vêtue qui chaque jour me déshabille avec cette expression hypocritement professionnelle pour dissimuler qu'elle trempe sa culotte, si tant est que cette chienne en porte une. Et quand elle rentre à l'hôpital, je suis sûr qu'elle raconte les détails à ses copines. Des salopes, elles aussi, et peut-être même qu'elle...
Monsieur Tache, je vous en prie.
Ça, mon cher, ça vous apprendra à m'enregistrer. Si vous preniez des notes comme un journaliste honnête, vous pourriez censurer les horreurs séniles que je vous raconte. En revanche, avec votre machine, pas moyen de faire le tri entre mes perles et mes cochonneries.
Et après le départ de l'infirmière?
Après, déjà, vous allez vite en besogne. Après, il est passé 18h. La salope m'a mise en pyjama, comme les bébés qu'on lave et qu'on emballe dans une barboteuse avant de leur donner leur dernier biberon. À cette heure-là, je me sens tellement infantile que je joue.
Vous jouez? À quoi?
Non, n'importe quoi. Je fais des parcours avec ma chaise roulante. J'organise un slalom. Je joue aux fléchettes. Regardez le mur derrière vous. Vous verrez les dégâts. Ou alors, suprême délice, je déchire les mauvaises pages des classiques.
Comment?
Oui, j'expurge La princesse de Clèves, par exemple. Voilà un roman excellent, mais beaucoup trop long. Je suppose que vous ne l'avez pas lu. Alors, je vous recommande la version raccourcie par mes soins. Un chef-d'œuvre, une quintessence.
Monsieur Tache, que diriez-vous si dans 3 siècles, on arrachait à vos romans des pages jugées superflues?
Je vous mets au défi de trouver une page superflue dans mes livres.
Madame de Lafayette vous eût dit la même chose.
Vous n'allez pas me comparer à cette midinette?
Mais enfin, monsieur Tache...
Voulez-vous connaître mon rêve secret? Un auto-da-fé. Un bel auto-da-fé de mon œuvre entière. Ça vous la coupe, hein?
Bien. Et après ces divertissements?
Vous êtes obsédé par la nourriture, ma parole. Dès que je vous parle d'autre chose, vous me ramenez à la bouffe.
Cela ne m'obsède pas du tout. Mais nous avions commencé sur ce sujet, alors il faut aller jusqu'au bout.
Ça ne vous obsède pas. Vous me décevez, jeune homme. Parlons donc bouffe, puisque ça ne vous obsède pas. Quand j'ai bien expurgé, bien lancé mes fléchettes, bien slalomé, bien joué, quand ces activités éducatives m'ont fait oublier l'horreur du bain, j'allume la télévision, comme les petits-enfants qui regardent leurs émissions débiles avant leur panade ou leur nouille alphabétique. À cette heure-là, c'est très intéressant. Il y a des publicités à n'en plus finir, surtout des publicités alimentaires. Je zappe de manière à me constituer la séquence publicitaire la plus longue du monde. Avec les 16 chaînes européennes, il est tout à fait possible, en zappant intelligemment, d'avoir une demi-heure de réclame sans interruption. C'est un merveilleux opéra multilingue. Le shampoing hollandais, les biscuits italiens, la lessive biologique allemande, le beurre français, etc. Je me régale. Quand les programmes deviennent stupides, j'éteins. Mis en appétit par la centaine de publicités que j'ai vues, j'entreprends de me nourrir. Vous êtes contents, hein? Vous auriez dû voir votre tête quand je faisais semblant de m'égarer à nouveau. Rassurez-vous, vous l'aurez, votre scoop. Mais le soir, je mange assez léger. Je me contente de choses froides, telles que des rillettes, du gras figé, du lard cru, l'huile d'une boîte de sardines. Les sardines, je n'aime pas tellement, mais elles parfument l'huile. Je jette les sardines, je garde le jus, je le bois nature. Juste ciel, qu'avez-vous ?
Rien. Continuez, je vous en prie.
Vous avez mauvaise mine, je vous assure. Avec ça, je bois un bouillon très gras que je prépare à l'avance. Je fais bouillir pendant des heures des couennes, des pieds de porc, des croupions de poulet, des os à moelle avec une carotte. J'ajoute une louche de saindoux, j'enlève la carotte et je laisse refroidir durant 24 heures. En effet, j'aime boire ce bouillon quand il est froid, quand la graisse s'est durcie et forme un couvercle qui rend les lèvres luisantes. Mais ne vous en faites pas, je ne gaspille rien, n'allez pas croire que je jette les délicates viandes. Après cette longue ébullition, elles ont gagné en onctuosité ce qu'elles ont perdu en suc. C'est un régal que ces croupions de poulet dont le gras jaune a acquis une consistance spongieuse. Qu'avez-vous donc ?
Je ne sais pas. De la claustrophobie, peut-être. Ne pourrait-on pas ouvrir une fenêtre ?
Ouvrir une fenêtre ? Un 15 janvier ? Vous n'y pensez pas. Cet oxygène vous tuerait. Non, je sais ce qu'il faut dans votre cas.
Permettez que je sorte un instant.
Pas question. Restez au chaud. Je vais vous préparer un Alexandra à ma façon, avec du beurre fondu.
À ces mots, le teint livide du journaliste vira au vert. Il décampa en courant, plié en deux, la main sur la bouche. Tache roula plein gaz jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la rue et eut la satisfaction intense de contempler le malheureux vomir à genoux, terrassé. L'obèse murmura dans ses quatre mentons en jubilant.
« Quand on est d'une petite nature, on ne vient pas se mesurer à prétexta tâche. »
Occulté derrière le rideau de voile, il pouvait se livrer au délice de voir sans être vu. Et il vit deux hommes jaillir du café d'en face et se précipiter vers leurs collègues qui, les entrailles vidées, gisaient à même le trottoir à côté de son magnétophone qu'il n'avait pas éteint. Il avait donc enregistré le bruit du vomissement. Étendu sur une banquette du bistrot,
le journaliste se remettait tant bien que mal. Il répétait parfois, l'œil torve,
« Ne plus manger, ne plus jamais manger. »
On lui fit boire un peu d'eau tiède qu'il examina avec suspicion. Les confrères voulurent écouter la bande. Il s'interposa.
« Pas en ma présence. Je vous en supplie. »
On téléphona à l'épouse de la victime qui vint le chercher en voiture. Quand il eut déserté, on put enfin mettre le magnétophone en marche. Les propos de l'écrivain suscitèrent dégoût, rire et enthousiasme.
« Ce type est une mine d'or. Voilà ce que j'appelle une nature. »
Il est merveilleusement abject. En voilà au moins un qui échappe à la soft idéologie.
Et à l'idéologie light. Il a une manière de désarçonner l'adversaire.
Il est très fort. Je n'en dirai pas autant de notre ami.
Il est vraiment tombé dans tous les pièges.
Je ne voudrais pas médire d'un absent, mais quel besoin d'aller lui poser ses questions alimentaires. Je comprends que le gros ne se soit pas laissé faire. Quand on a la chance d'interroger un tel génie, on ne lui parle pas de bouffe.
En leur fort intérieur, les journalistes étaient enchantés de ne pas avoir dû passer en premier ou en deuxième lieu. Dans le secret de leur bonne foi, ils savaient que s'ils avaient été à la place des deux malheureux, ils eussent abordé les mêmes sujets, certes stupides, mais obligés. Et ils étaient ravis de ne plus avoir à se charger de ce sale boulot. On leur laissait le beau rôle et ils en profiteraient, ce qui ne les empêchait pas de s'amuser un peu aux dépens des victimes. Ainsi, en cette journée terrible où le monde entier tremblait à l'idée de la guerre imminente, un vieillard, adipeux, paralytique et désarmé, avait réussi à détourner du golf l'attention d'une poignée de prêtres médiatiques. Il y en eut même un qui, en cette nuit de toutes les insomnies, se coucha à jeun et dormit du sommeil lourd et épuisant des hépatiques, sans la moindre pensée pour ceux qui allaient mourir. Tash exploitait à fond les ressources peu connues de l'écœurement. Le gras lui servait de napalm, l'alexandra d'arme chimique. Ce soir-là, il se frotta les mains comme un stratège heureux.